nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Ce sont les textes de trois auteurs, tous trois membres de l'Académie française, que je me propose de parcourir ou de redécouvrir avec vous dans cette émission consacrée à la Chine. Trois auteurs qui, émus par la destruction du fameux palais de Pékin, le palais d'été, ont rédigé des pages inoubliables. Trois auteurs majeurs, Victor Hugo, Pierre Loti et Pierre-Jean Rémy. Le palais d'été avait été aménagé en 1750 par l'empereur Qianlong, qui en fit une résidence somptueuse pour sa mère et située dans un cadre exceptionnel entre lacs et collines ornés de magnifiques jardins. Ce palais d'été s'ajoutait à d'autres palais impériaux qui existaient là depuis le XIIe siècle, mais celui-ci était particulièrement extraordinaire. Et cependant, ce palais d'été fut détruit à deux reprises. Une première fois en 1860 par les troupes franco-anglaises, puis une deuxième fois en 1900 par la coalition des huit puissances. Et pour évoquer le sac du palais d'été en 1860, resituons brièvement le contexte. Vers 1850, l'Empire chinois était le plus grand empire du monde. Il était gouverné par une dynastie mandchoue, mais cet empire manquait d'unité. Dès le XVIe siècle, les Chinois avaient accueilli les marchands portugais, puis au XVIIe siècle, les jésuites. Et cependant, le christianisme était officiellement interdit au début du XIXe siècle. Quant aux rapports commerciaux entre Chinois et Européens, ils se limitaient à troquer l'opium contre la soie et le thé. Et la décision du gouvernement chinois d'interdire la vente de l'opium a amené l'Angleterre et la Chine à la guerre de l'opium. C'était en 1840 et 1842. Et le traité de Nankin en 1842, par ce traité, les Anglais s'étaient fait reconnaître la possession de Hong Kong et le droit de commercer dans cinq grands ports avec de nombreux privilège, mais l'opium, bien sûr, restait l'enjeu majeur. La France, elle, se fit reconnaître le droit de construire dans ses cinq ports des églises, des hôpitaux, des écoles et des cimetières, et elle fit tolérer la religion chrétienne dans tout l'Empire. Des traités furent signés pour protéger le commerce de l'opium, des traités que les Chinois appelaient « traités inégal », et un deuxième traité « inégal » entre guillemets fut ainsi signé en 1858 à Tianjin. 11 ports supplémentaires furent ouverts et les douanes placées sous l'autorité de l'Occident. Les missionnaires, catholiques et protestants, reçurent l'autorisation de s'implanter à l'intérieur du pays. Ils ne se déferont jamais de l'accusation d'être venus en même temps que les camions militaires. Quelques mois plus tard, Pékin viole le traité de Tianjin. Des négociateurs anglais et des Français sont torturés, assassinés. Les Anglais et les Français décident alors de monter une expédition contre Pékin. Et le 13 octobre 1860, au dragon de papier agité par la population, ils opposent des obus et des tirs de canon. Cinq jours après, les troupes d'invasion sont lâchées dans le palais d'été. Elles saccagent et incendient le fameux jardin où l'on cultive la concorde, le Wangmingwand, et aussi, parmi les nombreux bâtiments du palais, une réplique de Versailles bâtie par des jésuites français. Et les soldats sont stupéfaits devant les richesses qu'ils pillent, qu'ils trouvent intactes dans le tas, et ils voient des présents offerts par les Occidentaux. L'Occident détruit l'Occident tout autant que l'Orient, analyse Alain Perfit dans l'Empire immobile, et surtout, il détruit pour longtemps les chances d'échanges amicaux qui eussent permis une fertilisation croisée entre les deux bouts du monde. Le premier à s'indigner de ce pillage fut Victor Hugo. Je rappelle que Victor Hugo avait été élu membre de l'Académie française le 7 avril 1841. Écoutez la lettre qu'il adresse de Guernesey, où il réside en exil, au capitaine Butler, le 25 novembre 1861.
Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze et de la porcelaine. Couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie. Faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine. Il avait fallu pour le créer le lent travail des générations. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, le palais d'été en Orient. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. On voit mêlé à tout cela le nom d'Elgine, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu'Elgine avait ébauché au Parthénon, on l'a fait au palais d'été, plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes les cathédrales réunies n'égaleraient pas ce formidable et splendide musée de l'Orient. Grand exploit, bonne aubaine. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, l'autre ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessous, en riant. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Mais je proteste. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et a étalé aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs. Je le constate. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine. Cette lettre méconnue est signée Victor Hugo.
Certes, si l'on en croit à l'imperfide, Victor Hugo aurait quelque peu exagéré la splendeur du palais d'été et il bat sa coulpe d'occidental sur la poitrine de Napoléon le Petit, amplifiant bruyamment le sanglot de l'homme blanc. Car après tout, des mises à sac, il y en avait déjà eu dans l'histoire, ne serait-ce que Rome par le très catholique Charles Quint ou le Palatinat par le très glorieux Louis XIV, mais sans doute Victor Hugo a-t-il bien deviné la gravité de ce traumatisme pour la conscience collective chinoise ? Revenons donc à l'histoire. Après cette nouvelle « victoire » entre guillemets des Occidentaux, on signe à Pékin un troisième traité inégal. Les Chinois se sentent humiliés. Des révoltes grondent. Le formidable soulèvement des Taiping entre 1850 et 1865 ébranle le pouvoir mandchou. La coalition franco-anglaise consolide donc la dynastie mandchou, tandis que la Russie se fait céder la province maritime à l'extrémité de la Chine, la Mandchourie, où elle construit le port de Vladivostok, ce qui veut dire « domination de l'Orient ». Et la situation pour la Chine alla de mal en pis jusqu'au début du siècle. L'impératrice Cui, femme énergique mais xénophobe, avait en 1886 fait reconstruire ce fameux palais d'été en dépensant des sommes considérables. On lui reprocha vivement d'avoir utilisé des fonds originellement destinés à la marine chinoise et qui, dans la guerre, firent cruellement défaut. Lorsque commença en 1898 la période des 100 jours, l'impératrice entama une politique de répression contre les partisans des réformes. Elle contribua ainsi au développement des sociétés secrètes et parmi celles-ci, la plus puissante était celle que les Européens appelaient les boxers ou boxeurs. très xénophobe. Il voulait interdire le christianisme, reprendre les territoires cédés dans ses traités inégaux, chasser les étrangers. Ils assassinèrent le ministre d'Allemagne et assiégèrent le quartier européen à Pékin. C'était l'été 1900. Les puissances occidentales, y compris le Japon et les États-Unis, envoyèrent des troupes et firent une seconde entrée dans Pékin. L'impératrice s'enfuit et le palais d'été fut saccagé. Et cette fois, c'est un autre écrivain, membre de l'Académie française, qui s'indigna, Pierre Loti. Mais rappelons d'abord que c'est à bord du vaisseau Le Formidable, en rade d'Alger, que Pierre Loti avait appris son élection à l'Académie le 21 mai 1891, au fauteuil 13, précédemment occupé par Octave Feuillet. Dans son discours de réception sous la coupole, le 7 avril 1892, Pierre Loti raconte comment il a appris la nouvelle de son élection. Écoutons-le.
Messieurs, j'étais loin de France, naviguant sur un des cuirassés de l'escadre, et arrivé de la veille au port d'Alger, le jour où votre compagnie, messieurs, me fit le grand honneur inattendu de me donner ici la place vide qu'Octave Feuillet avait laissée. Ce fut pour moi un inoubliable soir que celui du 21 mai 1891. L'élection avait eu lieu dans le jour, et moi, par incrédulité absolue de ce grand triomphe, peut-être aussi par je ne sais quel tranquille fatalisme d'oriental qui me reste au fond de l'âme, j'avais passé mon temps, l'esprit distrait et presque sans pensée, à errer tout en haut du vieil Alger, dans ces quartiers morts et ensevelis de chaux blanches qui entourent une mosquée antique et très sainte, un des lieux du monde où j'ai toujours rencontré le sentiment le plus intime et aussi le plus calme du néant des choses terrestres. Le soleil baissant, je redescendis vers le port pour regagner mon navire où m'appelait un service de nuit. Avant de rentrer, cependant, je voulus aller au bureau de la marine où l'on porte les dépêches qui nous sont destinées, pensant bien que quelque ami aurait pris soin de me dire quel était l'élu nouveau. Et combien de vos voix, messieurs, s'étaient égarées sur le marin errant que j'étais. Alors, pour me faire conduire à ce quartier solitaire du vieux port où le bureau de la marine est établi, je pris une barque sur le quai, une lilliputienne barque, la seule qui se trouvait là, menée par deux rameurs comiques que je vois encore et qui étaient de tout petits enfants. Il était déjà fermé, ce bureau, quand j'arrivai. Un matelot qui montait la garde aux environs, après avoir trouvé à grand-peine une clé pour l'ouvrir, chercha dans l'étagère des lettres. La case réservée à mon navire. Elle était remplie d'un monceau de petits papiers bleus qui, depuis 2 heures, n'avaient cessé d'arriver à mon adresse. Et au lieu d'une dépêche que j'attendais, ce matelot, très étonné, m'en remit de quoi remplir mes 2 mains. J'avais compris, avant même d'avoir déchiré la première, et une sorte d'éblouissement me vint, qui était plutôt mélancolique et ressemblait presque à de l'effroi. Je remontai sans mot dire dans ma très petite barque à équipage d'enfant, qui, en vérité, était maintenant bien modeste pour porter ma fortune nouvelle, et tant que dura le trajet jusqu'à mon navire, tout en glissant sur l'eau tranquille, je déchirai un à un les papiers bleus, lisant de près, aux dernières lueurs rouges du jour, dans le beau crépuscule commençant, ces félicitations qui m'arrivaient de toutes parts, et où les mots « joie »,« bonheur » revenaient toujours à côté du mot « gloire ». Dans ce calme du jour de printemps qui finissait, cet instant me semblait solennel, comme chaque fois qu'un grand pas vient d'être franchi dans la vie. Je sentais même une sorte d'angoisse étrange, comme si un manteau trop magnifique, mais en même temps trop lourd, trop immobilisant, eût été tout à coup jeté sur mes épaules. Et puis je songeais à celui dont le départ m'avait ouvert ses portes et qui précisément avait été dans le monde des lettres le premier déclaré de tous mes amis intellectuels. Il me semblait qu'en prenant sa place, je le plongeais plus avant dans la grande nuit où nous allons tous. Il fallut mon arrivée à bord, la bonne et franche joie du très charmant amiral qui nous commandait, la fête que me firent mes chers camarades du carré, pour me donner enfin à entendre que cette gloire un peu effrayante était vraiment une chose heureuse. Et j'avoue, par exemple, que je finis très gaiement la soirée au milieu d'eux.
Pendant les 8 années qui ont suivi cette entrée sous la coupole jusqu'à l'année 1900, Pierre Loti est donc devenu un personnage influent, publiant une œuvre imposante et de nombreux livres dont je ne citerai que pour mémoire Mon frère Yves, Pêcheur d'Islande, Madame Chrysanthème, Ramuncho et bien d'autres encore qui font écho à ses multiples séjours sur des terres loin de la France. Après une mise en retraite de la marine, puis une réintégration en 1900, Pierre Loti séjourne en Asie. Et là, il écrit « Les derniers jours de Pékin » qui sera publié en 1902. Son journal du 19 octobre au 3 novembre 1900 relate. Pendant l'hiver 1900, Pierre Loti, officier de marine, participe au corps expéditionnaire que les sept puissances occidentales dépêchent en Chine pour réprimer l'insurrection des Boxers qui assiègent les légations et menacent leurs intérêts économiques. Pour la première fois, des barbares d'Occident vont entrer dans la cité interdite, abandonnée par l'empereur en fuite, et même y installer leur campement. Pierre Loti est le témoin de cet événement qui annonce la chute de l'Empire des Fils du Ciel. Ce n'est pas la première fois, contrairement à ce que dit Loti, mais les barbares se sont montrés aussi barbares que la première fois. Enfin, troisième écrivain membre de l'Académie française à s'être ému du sac du Palais d'été, notre contemporain Pierre-Jean Rémy. Pierre-Jean Rémy, né en 1937 à Angoulême, a choisi, après ses études à sciences politiques, des études de droit et des études de sociologie, après un séjour aux États-Unis et un diplôme de l'École nationale de l'administration, il a choisi de mener une double carrière de diplomate et d'écrivain. Et le diplomate, à ses débuts, s'est trouvé en poste à Hong Kong, puis à Pékin, où après avoir été vice-consul archiviste durant l'année 1963-1964, il devient deuxième secrétaire d'ambassade de 1964 à 1966. L'Asie, la Chine, les écrivains français qui ont vécu en Chine ont eu à ce moment-là une influence décisive sur lui. Et lorsqu'il rentre en Europe pour devenir premier secrétaire d'ambassade à Londres, il a déjà publié une quarantaine d'ouvrages et son roman « Le sac du palais d'été » qui lui valut le prix Renaudot en 1971 rencontra immédiatement un immense succès. Précisons que sa nouvelle « L'Orient Express 2 » fut couronnée du prix de la nouvelle de l'Académie française et que son ouvrage « Une ville immortelle » fut couronné, lui, du Grand Prix du roman de l'Académie française en 1986. Tout cela aboutit à ce que le 16 juin 1988, Pierre-Jean Rémy soit élu à l'Académie française au fauteuil 40, précédemment occupé par Georges Dumézil. Mais que l'on ne s'y trompe pas, contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, le sac du palais d'été n'évoque pas la mise à sac du fameux palais, mais raconte les destins croisés de divers personnages qui vécurent en Chine et à Pékin. Plusieurs histoires s'entrecroisent donc dans la ville impériale. Le passage que Pierre-Jean Rémy consacre à la destruction du palais d'été est bref, qu'on en juge.
Les troupes anglo-françaises franchirent le pont de Palikao le 21 septembre 1860. La voie était ouverte jusqu'au palais d'été, le célèbre Yuan Ming Yuan, construit sur les plans des jésuites européens au XVIIIe siècle. Imaginez, dira un témoin, des jardins immenses, où, sur une étendue de 4 lieues environ, les palais, les pagodes et les lacs se succèdent à chaque pas. Dans les palais C'est une profusion d'objets d'art chinois et européens, où les lambris d'ivoire, les candélabres étincelants, les meubles de toutes formes, les ornements d'or, de jaspe, de jade et de porphyre se mêlent et s'enlacent, se répercutent dans de grandes glaces qui semblent sortir de la manufacture de Saint-Gobain. Arrivé au palais d'été, les alliés désignèrent dans chaque corps d'armée trois commissaires chargés de faire mettre à part les objets de curiosité les plus précieux et de procéder au partage des monnaies d'or et d'argent trouvées sur place. Puis, de toutes les splendeurs qu'on ne pouvait partager, il ne restera pourtant bientôt plus que des ruines, poursuivra le témoin, car Lord Elgin et le général Grant ont fait incendier ce fameux palais impérial pour tirer vengeance des cruautés infligées aux prisonniers européens. Il s'agissait en effet de laisser derrière nous un souvenir éternel de notre vengeance et un sentiment de terreur, seul capable d'assurer notre tranquillité dans l'avenir.
Si Pierre-Jean Rémy accorde peu de place donc au sac du palais d'été, par contre, il évoque longuement les voyages de l'écrivain Victor Segalen en Chine. Restons un instant, si vous le voulez bien, sur Victor Segalen. Il était né à Brest en 1878, devint médecin de marine, archéologue, poète et surtout sinologue. Il fit de nombreux séjours à Pékin avant la Première Guerre mondiale et organisa plusieurs expéditions archéologiques en Chine intérieure. L'auteur de Stèles, équipées, Tibet, rencontra un jour à Tientsin le jeune diplomate Paul Claudel, qui à l'époque n'était pas encore membre de l'Académie française.
À Tientsin, Victor Segalen avait rencontré le consul de France qui s'appelait Paul Claudel. Froid et aimable d'abord, plus aimable que froid. Tête ronde, yeux porcelaine très vif, menton et bouche empâtée comme son parler un peu. Il a reçu mon livre et ma lettre, les a lus, écrivit le nouvel arrivant à sa femme. Claudel le retint longuement. Ils parlèrent de Rimbaud et de Suarez. Au départ, poignée de main, un peu grasse et molle. Tientsin est une fausse ville chinoise construite par des Européens, pense Segalen, qui la quitte avec soulagement. Il a d'autres choses à voir, plus graves et plus mystérieuses, que ces bulbes néo-slaves, ces façades de banques belges ou de crédits provinciaux.
Victor Segalen, sinologue, était en lien avec l'académicien Édouard Chavannes, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1903 et membre de la Société asiatique. Voici ce qu'écrit Pierre-Jean Rémy dans le sac du Palais d'été sur cette amitié Segalen-Chavannes.
Mais en Europe, mais à Pékin même, et Dieu sait pourtant si cette armée en marche, qu'était la ville, qu'étaient ses temples, lui apportait des joies profondes. Victor Segalen, entre les Belmont, les Autric, les Morisseret, n'avait d'autre désir que de repartir. La Chine tout entière, déployée comme un étendard inconnu, le défiait. Il s'agissait d'aller de l'avant, conquérir, chercher l'indéchiffrable. Et tous les prétextes étaient bons. Et puis Segalen était archéologue. Le reste ne fut que formalité. Son amitié avec Chavannes, le grand sinologue, lui ouvrit bien des portes. Il en profita. Grâce à l'appui de Chavannes lui-même, mais aussi du ministère de la Marine et de celui des Affaires étrangères, il obtint des sommes suffisantes pour partir à la tête d'une mission officielle de reconnaissance et d'exploration archéologique en Chine centrale. Il s'agissait, sur le terrain, dans la marque même de la terre meuble, de retrouver les hauts lieux que récitaient les textes anciens, de faire coïncider donc un réel à peu près disparu, souffle des grands vents rouges du Shanxi, avec un imaginaire construit par les hommes et que la mémoire seule de la parole écrite avait su préserver. Augusto Gilbert de Voisin, une fois encore, et Jean Lartigue, l'ami le plus fidèle, l'accompagnaient. En cours de route, il devait glaner l'ample moisson de photographies, d'estampages, pierres passées au noir qui se reflètent en double inversé sur le papier de riz, de traces, de signes, qui allaient étayer dans le monde du concret les visions imparfaites, hésitantes, entrevues fabuleuses et éphémères pourtant, qui seraient alors les leurs. Car là, dans ces rencontres vives, n'était pas l'essentiel. L'important pour Victor Segalen était de juxtaposer deux mondes qu'il connaissait, ou plus exactement, pressentait également dans leur diversité vivante. Il fallait que la gangue de terre et de scories qui enveloppait la pierre noble, le marbre le plus blanc, s'effritât, que le marbre et la pierre nue redeviennent totalement et uniquement ce que la poésie des Han ou des Tang ou l'histoire de ceux Batsien avaient fait d'elles, des signes debout, des médiateurs privilégiés entre l'imaginaire et le réel. C'était là le départ, qu'il avait dit.
Ces extraits du Sac du Palais d'été de Pierre-Jean Rémy de l'Académie française vous donneront sans doute l'envie de lire ce roman en entier. Précisons donc qu'il est publié par Gallimard dans la collection Folio et qu'il porte le numéro 1920. Si vous désirez de plus amples précisions sur le Sac du Palais d'été, reportez-vous à l'émission Un jour dans l'histoire, dans laquelle Christophe Dickès reçoit le journaliste Bernard Briset, auteur d'une étude consacrée à cet événement. Si vous désirez en savoir plus sur la société asiatique et ses liens avec les académiciens de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, reportez-vous à l'émission Point de mire qui lui est consacrée. Et je terminerai en mentionnant que depuis décembre 1998, l'UNESCO a inscrit le Palais d'été dans sa liste du patrimoine mondial. Elle le qualifie d'expression exceptionnelle de l'art créatif du jardin paysager chinois, intégrant réalisations humaines et nature en un tout harmonieux. Je vous invite à découvrir dans la médiathèque de Canal Académie la vingtaine d'émissions également consacrées à la Chine, émissions que vous pouvez télécharger librement.